Allons au fait par Régis Debray, le religieux mis honnête.
Qu'appelle-t-on religion ? À l'origine, dans la Rome antique, le mot désignait le respect des institutions établies. Et puis le mouvement chrétien qui était en train de naître s'en est emparé pour se légitimer. Mais il importe de s'affranchir de cette matrice abusive pour revenir aux fondamentaux du phénomène baptisé religieux. Les choses de la religion qui passent pour abruptes constituent dans les faits un monde de fluidité en clair-obscur, aux frontières indécises, aux banlieues incontrôlables. La scientologie, le yoga, l'astrologie, les rose-croix en font-ils ou non partie ? Le turban sikh, un signe religieux ou un attribut ethnique ? Le candomblé au Brésil, folklore ou religion ? Le bouddhisme, qui ne renvoie pas à un dieu mais érige des pagodes. Sagesse, spiritualité ou confession ? Et le positivisme d'Auguste Comte, qui a aussi ses temples, et il en garde encore au Brésil, et qui a prêché une religion de l'humanité ? Et le marxisme-léninisme, où une forme de savoir se présentait en moyen de salut ? Et le drapeau étoilé, que l'écolier américain salue chaque matin la main sur le cœur, c'est une religion civile ou pas ? Écoutez, voilà des questions qu'on entend un peu partout et dont il arrive qu'elles n'aient d'ailleurs rien de spéculatif, puisque de la réponse qu'on leur donne peuvent dépendre, dans tel ou tel cas, l'exclusion d'un établissement scolaire, port de signes religieux, ou une exemption de la taxe foncière qui est prévue pour une église. Sur tous ces confins identitaires, il règne un certain brouillard, un dégradé volatile qui va du rouge sang au vert pâle et où le sulfureux peut côtoyer le féerique. Mais cette ambiguïté, est-ce que c'est pas le fond même du phénomène religieux ? Un être religieux, c'est un Janus, toujours susceptible de présenter à celui qui le gifle ou bien qui le cajole son autre joue. Et Karl Marx avait parfaitement saisi cette double face dans son texte toujours mal compris de 1844. Vous savez, le fameux texte sur l'opium du peuple. Il y voyait à la fois l'expression de la détresse réelle et la protestation contre la détresse réelle. Traduction concrète, on l'a testé en Amérique latine. Un militant chrétien peut faire un excellent réactionnaire et un excellent révolutionnaire. Vous voyez, la façon dont nous répondons à toutes ces questions pratiques, ça dépend de l'idée préalable qu'on a de ce qu'est une religion. Alors, il en existe à peu près 200 définitions, dont aucune ne fait clairement et partout autorité. Celle qu'on reprend en France le plus souvent, c'est celle du sociologue Émile Durkheim. Une religion... Je cite, « Une religion est un système solidaire de croyances et de pratiques relatives à des choses sacrées, c'est-à-dire séparées, interdites, croyances et pratiques qui unissent en une même communauté morale appelée Église tous ceux qui y adhèrent. » Fin de citation. Oui, c'est une définition pertinente, mais encore très approximative. Parce qu'enfin, il y a des religions sans Église. L'islam en est une. Il y en a d'autres, faites d'observances sans croyance, et un certain judaïsme peut être cela. Et la plupart des religions n'exigent pas d'adhésion à un quelconque corps de vérité. Pensons à l'hindouisme ou à l'animisme, qui sont des messages héréditaires que chaque génération transmet à la suivante sans y penser. Donc, tout laïc que ce soit voulu Durkheim, sa définition, en réalité, se moule sur une matrice chrétienne très particulière et elle est tout entière contenue, cette matrice, dans le mot de religion auquel il faut remonter pour commencer d'y voir un peu plus clair dans ce maquis. Oui, il faut, pour savoir de quoi on parle, sortir de l'étroite orbite européenne et se décentrer, parce que religion est un localisme, en fait un latinisme, religio. Et le mot qui nous piège, qu'on emploie toujours, il provient d'un vol de concept, il provient d'un coup de force effectué par l'apologiste carthaginois Tertullien au IIe siècle de notre ère, en l'an 197 exactement. Le contemporain de Tertullien, Cels, qui était un palien et qui défendait la culture hellénique, il venait de qualifier le christianisme de religion barbare et absurde. Et alors Tertullien a eu l'idée, on peut dire géniale, de qualifier de religio son culte chrétien encore à l'état naissant, un culte que les Romains, tacite en tête, qualifiaient jusqu'alors, en toutes lettres, d'exécrable superstition. Soit une de ces extravagances propres aux villes multitudes, synonymes d'inculture. Écoutez Cicéron, il me semble que si nous détruisons la superstition, nous aurons rendu un grand service à nous-mêmes et à nos concitoyens. Car le sage doit protéger les traditions des ancêtres en conservant les rites et le culte. Fin de citation. Et donc, vous voyez, dans sa version première, la religion, ça désignait l'institutionnalité civique, ça désignait l'establishment. Et Tertullien a procédé, comme on dirait, au jeu d'échecs, en un roc. Il a interverti la tour et le roi pour intervertir les titres de crédibilité, c'est-à-dire qu'il a baptisé le culte chrétien de religio, et qui du coup devenait un culte légitime, et même un prétendant potentiel à l'officialité, et le paganisme s'est retrouvé une simple superstition, encore tolérable à l'époque aux yeux de Tertullien, mais déjà marginale. Alors ce religio, cette religion, ce mot latin, c'est un carrefour étymologique. C'est un croisement, excusez-moi d'être un peu pédant, mais il faut revenir à l'origine. C'est un croisement entre relégueré, recueillir, et religare, relier. Relégueré, c'est l'origine consignée par Cicéron, et c'est la bonne. La seconde, religare, elle est due aux chrétiens lactance. Et dans relégare, il y a simplement une idée morale de scrupule, indépendante de tout surnaturel, n'est-ce pas ? Relégare, ça veut dire relire, vérifier, revoir avec soin, faire très attention. Et c'est le sens qui se retrouve dans notre accomplir religieusement une tâche. Et en ce sens, l'opposé exact de religion, c'est distraction. C'est négligence. C'est le fait de ne pas lire. Et encore moins de relire. Donc l'opposé de religion, je dirais que c'est à la fois le zapping et le quant à soi. Parce que l'esprit religieux, ça confine à l'esprit de corps. Ça veut dire, au fond, être loyal à sa patrie et suivre les obligations de l'appartenance à un pays. Mais au fond, la rencontre de ces deux verbes latins, relégare, religare, elle est heureuse parce qu'elle combine les idées de réunion, l'assemblée, et de répétition, le rituel, c'est-à-dire de rassemblement et de recueillement. Et l'esprit de religion, au sens où on parle d'esprit divin, ça consiste à faire mémoire et à faire groupe, l'un par l'autre. Parce qu'un groupe consistant et résistant a besoin d'avoir une bonne mémoire, et une mémoire vive et bien ancrée a besoin d'être portée, cadrée par un groupe. Seul ce qui nous dépasse peut nous réunir, et c'est parce que ce qui nous dépasse ne tombe pas sous le sens qu'il faut procéder à une soyeuse recollection, à une soyeuse relégare des traces et des signes, et à leur incessante remise en état par des cérémoniales réglées. Et d'ailleurs, regardez, autour de nous. Qu'est-ce que c'est qu'un lieu de culte ? C'est un lieu de commémoration où l'on se met ensemble, comme, pour se ressouvenir, mémoration. Alors, il faut d'abord dire qu'on ne trouve pas trace du mot religion hein, dans les archives des autres civilisations. En sanskrit, on dit dharma qui est formé sur la racine d'air, ce qui porte l'univers, ça signifie à la fois la voie, l'enseignement. Ça signifie l'ordre cosmique qui sous-tend la société comme la vie des individus. En hébreu, c'est le dat qui est un terme de droit politique qui veut dire jugement ou décret. Autrement dit, nous traduisons dat par religion, mais en fait, le dat, c'est le système juridique d'une nation, en l'occurrence perse ou mède, parce que le creuset persan est le grand oublié de notre histoire occidentale des religions. Et le dat vient du mot den, qui veut dire en perse quelque chose comme religion. Mais le mot n'apparaît pas dans la Bible. Enfin, ce qu'on appelle la Bible, c'est-à-dire les livres et non le livre. La Bible, c'est une bibliothèque qui a été rédigée pendant 1000 ans. Et il n'y est pas fait mention de religion, hein, pas plus que de croyance. Parce que les Hébreux ne croyaient pas en Dieu, ils vivaient avec, ce qui est beaucoup plus sûr. Et vous pouvez fouiller dans les évangiles, vous ne trouverez pas non plus le mot de religion. Hein. Pourquoi ? Parce que les évangiles furent rédigés en grec, et que en grec, le mot non plus n'est pas là. On traduit ainsi treskeia, qui veut dire l'observance des prescriptions cultuelles. On traduit ainsi deisidémonia, qui veut dire la crainte excessive des dieux. On peut même traduire ainsi eusebia, la piété. Mais tous ces termes ne renvoient qu'à une idée de redlémentation publique et non pas de dispositions subjectives et encore moins d'institutions séparées comme une église. Il n'y avait pas d'église en Grèce et à Rome. Quant à l'arabe classique, lui, il emploie « din hein, », ça veut dire la dette, ce dont on doit s'acquitter, la créance. C'est encore un mot qui vient d'un mot perse, qui a pris dans la péninsule arabique le sens de coutume et d'usage, puis de direction donnée par Dieu, qui va donner à chacun son dû le jour de jugement. Oui, la notion connote la soumission aux lois promulguées par Dieu pour guider sa créature vers sa fin dernière. Quant aux Chinois, ils ne parlent pas de religion. Ils parlent de Tao, qui veut dire la voie, qui marque à la fois la marche des choses et l'emploi qu'on doit en faire. Confucius a une doctrine, c'est-à-dire un recueil de principes, mais il n'a pas un credo et il ne fait pas référence à un dieu. Donc, en Chine, c'est plutôt la notion d'école, c'est-à-dire d'enseignement des ancêtres, qui tient lieu de ce que nous appelons de religion. Quant aux sociétés primitives, ou ce qu'on appelle ainsi, peut-on parler de religion en ce qui les concerne ? Oui, c'est vrai que à l'école pratique des hautes études à Paris, dont je suis un peu l'obligé, il existait une chaire intitulée « Religion des peuples non civilisés ». Elle avait été créée en 1888, occupée par Marcel Mauss, puis par Maurice Lennart. Elle a été rebaptisée « Religion comparée des peuples sans écriture » en 1954, et puis un jour, Lévi-Strauss, qui en était devenu le titulaire, abandonna le mot de religion pour proposer à la place l'observation comparative des mythes et des rituels. Exit religion. Bon, vous voyez que c'est un mot tout de même très particulier. C'est un mot qui est absent partout où la croix ne nous fait pas signe. Et notre religion, dans l'océan des pratiques cultuelles, c'est simplement un archipel qui s'est annexé les continents riverains par empiètement d'une civilisation triomphante sur des civilisations vaincues ou assimilées, du moins jusqu'au XXe siècle, qui est peut-être un détournement d'héritage, un viol impérial ou un peu plus qu'un quiproquo tout de même. au premier siècle de notre ère où tout s'est joué, le bassin méditerranéen, où est né le mot religio, avait les moyens de se prendre et de se faire prendre pour le nombril du monde, ce qu'est aujourd'hui le bassin pacifique. Mais enfin, trop tard pour changer notre lexique. Et donc, un montage symbolique exceptionnel, notre religio, qu'on peut appeler une ontothéologie, s'est transformé en catimini, en étalon maître des croyances homologuées par la vertu d'un cuia nominor Léo, parce que je suis le lion. Mais, commençons par le dire, pour une bonne moitié de l'humanité actuelle, la religion, dans l'acception que lui donne notre sens commun, à savoir le culte exclusif d'un dieu créateur, avec un magistère, une profession de foi, une théologie, un clergé et des écritures saintes, cela est une notion empruntée, et pour les 9/10 de l'humanité historique, une notion introuvable. Religions révélées, elles ont su presque trop bien domestiquer nos pulsions de croyance un peu sauvages. Ce sont les plus élaborées et aussi les plus intolérantes. Pourquoi ? Parce qu'elles ne se contentent pas de régler nos mœurs ou d'inspirer nos sentiments intimes. Ce sont des religions qui ont lié la croyance à la notion de vérité. Et ça, c'est de la dynamite. Vera religio veri dei, la vraie religion du vrai Dieu, c'est ainsi que les pères de l'Église appelaient leur foi. Les religions païennes de l'Antiquité, d'ailleurs comme la religion naturelle du XVIIIe siècle, ne se mêlaient pas de dire le vrai. Elles ne pouvaient clamer partout « Je suis la seule véritable, chez moi tout se tient, chez vous tout brinque-balle et fait fausse route ». Vous et moi, nous ne sommes pas compatibles. Non. Viser l'absolu est une chose, prétendre y être arrivé en est une autre. Et comme Dieu, par construction, ne peut pas mentir ni se tromper, tout ce qu'il nous a révélé ne peut être que véridique, et tout ce dont il n'a pas parlé ne peut être que faux. Et le faux est une agression contre le vrai. L'éradiquer est un devoir, ce qui peut transformer le meurtre de l'hérétique en acte de piété et le bûcher en un service qu'on lui rend, qui va lui permettre d'éviter l'enfer. Parce que la vérité est une et l'erreur multiple. Et Simone de Beauvoir ajoutait, il n'est pas étonnant que la droite professe le pluralisme. Enfin, voyez-vous, ce court-circuit entre, disons, le raisonnement et la conduite, entre la logique et la morale, nous a rendu naturelle une idée qui semblerait totalement barbare ou idiote à un Chinois, un Japonais ou un Indien. L'idée que parce qu'on a une religion, on ne pourrait pas en avoir une autre. Excusez-moi, mais un Japonais né en milieu Shinto, il n'hésite pas à se marier chrétien et à mourir bouddhiste. Un chinois Han se promène en souplesse entre Bouddha, Confucius et le Tao, sans avoir à renier un isme pour un autre. Oui, parce que bouddhisme, confucianisme, taoïsme, ce sont des inventions européennes et pas asiatiques. D'ailleurs, les temples en Chine sont la maison de toutes les divinités et l'encens ne fait pas le détail. Et en Inde, un fidèle de Vishnu ne trouvera pas répréhensible d'aller fleurir l'autel de Shiva. Alors, voyez-vous, nous, on a tout de même saisi cette difficulté, et c'est pourquoi en France, les textes fondateurs de notre laïcité ne parlent pas du terme de religion. La République, en tant que telle, elle n'a pas à décider de ce qu'est ou non une religion. Elle ne s'estime pas habilitée à reconnaître l'original. Et donc, comment le serait-elle pour la contrefaçon qu'on appelle une secte ? C'est aux églises instituées de décréter ce qui est à leurs yeux légitime ou non, mais les pouvoirs publics n'ont pas à endosser des décisions d'ordre théologique qui ne sont pas de leurs compétences. Même si l'affaiblissement des institutions leur transfère de facto ce pouvoir d'arbitrage. Oui, parce que la sécularisation de nos sociétés a un effet paradoxal. Elle fait proliférer un religieux éclaté et diffus, hors normes et hors cadre, difficile à circonscrire. Raëlien, pentecôtiste, scientologue, mandarome, loge blanche. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup, disons, de faubourgs du religieux. Et il me semble qu'on aurait bien tort de s'aventurer sur ce terrain mouvant où il y a une distinction classique, faite par le sociologue Weber entre l'institution du salut, la religion, et le groupe contractuel, la secte, disons entre la voie correcte et le dévoiement. Mais cette distinction, elle pose plus de questions qu'elle n'en résout. Chacun sait d'abord qu'une religion établie, c'est une secte qui a réussi. Et d'ailleurs, ouvrez les actes des apôtres et vous verrez que les compagnons de Jésus sont désignés comme la secte de Jésus, en grec « aïrésis », c'est-à-dire un groupe dissident du judaïsme orthodoxe. Il est vraiment difficile à tracer la frontière entre la captation de consentement, l'abus de faiblesse psychologique de la part d'un gourou, et puis l'orientation donnée par un confesseur ou l'emprise d'un père abbé sur une communauté. Oui, secte, ça vient de s'écarter, couper. L'adepte d'une secte se coupe de son milieu pour suivre un chef charismatique et intégrer un groupe dont il ne pourrait sortir librement et qui lui impose une terrible discipline. Oui, certes, c'est une définition, une conception possible, mais je vous ferai remarquer que il l'a fait par son libre consentement, alors qu'un membre d'une église habilitée, il l'est souvent par inertie, habitude ou simple tradition. Le sectateur d'une religion reconnue, oui, il se coupe aussi de son milieu et parfois même de sa famille. Et les dures disciplines du chartreux, elles feraient du plus dur des maîtres zen ou néo-païens d'une secte, un vrai papa gâteau. Il y a eu un rapport parlementaire en 1996 qui résumait, alignait les critères de ce qu'est une secte. Mais ces critères, vous les retrouverez dans le tableau clinique d'une organisation religieuse normalement millénariste et prosélyte. Parce qu'une église, c'est toujours un peu une contre-société, sans quoi d'ailleurs elle n'aurait ni attrait ni raison d'être. Donc, j'ouvre ce rapport parlementaire et qu'est-ce que je lis pour dénoncer la secte ? La déstabilisation mentale, les exigences financières, la rupture avec l'environnement d'origine, les atteintes à l'intégrité physique, l'embrigadement des enfants, le discours plus ou moins antisocial, les troubles à l'ordre public, l'importance des démêlés judiciaires, l'éventuel détournement des circuits économiques traditionnels, les tentatives d'infiltration des services publics. Fin de citation. Autant dire que l'Opus Dei n'a qu'à bien se tenir. Il est vrai que le cumul de tous ces critères que je viens de rappeler, sans doute assez rare, aurait de quoi inquiéter n'importe quel honnête citoyen. Mais c'est sagesse, me semble-t-il, que de ne pas se lancer dans une chasse aux sorcières pour s'en tenir au code pénal. Jugeant les nouveaux mouvements religieux sur ce qu'ils font et non sur ce qu'ils sont ou disent être, ou ce qu'on dit qu'ils sont, la République n'a pas d'autre motif d'inculpation que les délits et crimes prévus par la législation, incitation au suicide, extorsion de fonds, non-respect de l'obligation scolaire. Et c'est pourquoi, sans entrer dans la distinction toujours un peu périlleuse entre l'Église et la secte, le droit français ne parle pas de religion, il ne connaît que des cultes. Des cultes sont des activités dont l'exercice n'implique aucun jugement de valeur. Il y a une définition du culte par le Conseil d'État, donnée en 1997. Un culte, c'est la célébration de cérémonies organisées en vue de l'accomplissement par des personnes réunies par des croyances religieuses, de certains rites ou de certaines pratiques. Donc, qu'appelle-t-on religion ? Remplaçons le mot par « qu'appelle-t-on un culte ?» Deux critères de reconnaissance. D'un côté, des rituels collectifs. De l'autre, un destinataire méta-empirique ou transcendant. Astre, divinité, empereur, héros, fondateur ou même diable. Et voilà qui nous met sur la bonne piste. Premier critère. Une religion ne se caractérise pas par le fait de croire, mais par le fait de se réunir au nom d'une croyance. Pas plus qu'il n'y a de langue d'un seul, il n'y a de culte d'un seul. Le fidèle d'une confession s'intègre à une communauté, alors qu'un spirituel peut faire un promeneur solitaire ou même un tir au flanc. Le religieux est celui qui dit « nous ». Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Et au « Notre Père chrétien » répond la Fatiha musulmane. C'est toi que nous adorons, c'est de toi que nous implorons le secours. L'exercice religieux est extraverti, l'expérience spirituelle est intérieure. Elle se décline à la première personne, c'est le témoignage d'un « je » et non d'un « nous ». Et d'ailleurs les grands textes spirituels, Jean de la Croix, Thérèse d'Avila, Pascal, ce sont des épanchements ou des retranchements intimes, autobiographie, lettres ou confessions. Le spirituel détache, la religion rattache. Une religion, c'est une foi qui produit un calendrier, une diététique, une garde-robe, des festivités. Bref, c'est ce qui scelle une appartenance et insère dans une lignée. D'ailleurs, ecclésia comme synagogue, ça veut dire assemblée. Congrégation, confrérie, communauté, fraternité, compagnie, ordre, tous ces termes du vocabulaire religieux désignent des collectivités dont chacune cultive un esprit de corps. En d'autres termes, le spirituel se prépare à la mort, le religieux prépare les obsèques. Et l'un n'a pas forcément besoin de l'autre. On peut croire en solo sans appartenir et on peut appartenir sans croire, rien que pour rendre service. Et vous voyez pourquoi dans une société atomisée comme la nôtre, qui rêve d'un individu en complète autogestion et qui voit dans toute institution une oppression, les religions ne sont pas bien vues, mais les spiritualités, elles ont le vent en poupe. Elles sont mises au service de l'ego et rebaptisées méthode d'accomplissement personnel. Les spiritualités, ça a un avantage, ça n'exige pas de discipline de groupe ni d'éducation préalable. Et le consumérisme ambiant peut en faire ses choux gras, avec vadémécum, stages et séminaires qui engorgent le marché du bonheur. Les recettes pour être bien dans sa peau et dans sa tête vont de la cuisine macrobiotique au néo-bouddhisme, de la méditation au stage bio-énergétique, de la guérison par les fleurs au mystico-ésotérique. Tout cela exige assez peu et peut rapporter beaucoup. Ces connaissances dites traditionnelles peuvent même présenter comme sagesse de vie, s'entourer pour mieux se vendre d'un halo de religiosité. Et oui, c'est vrai que l'élévation, sans l'obligation, c'est un peu la crème sans la pâte. C'est idéal pour un monde négligent, égoïste et sautillant aux capacités d'attention. Et vous vous rappelez que religion, c'est attention de plus en plus limitée. Conclusion de méthode. N'allons pas confondre les emplois. Distinguons entre le religieux et le spirituel, entre le choriste et le ténor. Deuxième critère, des pratiques. Il y a des religions sans orthodoxie, mais il n'y en a pas sans orthopraxie. Un bon système de croyance ne suffit pas, il faut aussi des bonnes conduites, c'est-à-dire des rites réguliers et régulés qu'implique toute liturgie. Liturgie en grec, ça veut dire le service du peuple. Et une théologie sans liturgie, ça ne ferait jamais qu'une philosophie de plus, qui ne concernerait pas escalité, le préfet de police. Le religieux, en revanche, concerne les pouvoirs publics, même en régime de laïcité, puisqu'ils ont à veiller sur l'ordre public. Non pas sur ce que les gens croient ou pensent, mais sur ce qu'ils font. Il existe au ministère de l'Intérieur un bureau central des cultes qui ne se soucie guère des spiritualités parce que les spiritualités sont privées. De même, existe-t-il un atlas, une carte électorale, une sociologie des religions ou des cultes et non des spiritualités? Et pour cause, s'il ne peut y avoir religion sans un certain marquage de l'espace, sans une certaine scansion du temps, rythmée par des fêtes et des cérémonies, un culte, c'est au fond une patrie, grande ou petite. Un culte est moins professé qu'habité, et cet habitat, avec ses prescriptions individuelles ou collectives, cet habitat, c'est un englobant. La demeure islamique, par exemple, a ses cinq piliers. Le témoignage, la prière, l'aumône, le ramadan et le pèlerinage. Cela balise une existence. Et c'est l'une des raisons pourquoi a été, et il sera toujours déçu, pour reprendre les mots de Julien Gracq, je cite, l'espoir vain sur lequel on dormit trois siècles d'un sommeil traversé de crises somnambuliques, l'espoir vain d'une réduction définitive de l'irrationnel par le rationnel. Oui, l'opposition du rationnel et de l'irrationnel, du vrai et du faux, ça ne mord pas sur des pratiques qui offrent mieux et plus qu'un cadre de pensée, un cadre de vie. Plus et mieux qu'un cadre de pensée personnelle, un cadre de vie solidaire. Parce que l'homme n'est qu'en partie un être raisonnable. Il est non moins éminemment, comme dit Robert Damien, un être maisonnable, un être d'habitude. Et les religions établies lui offrent, en plus d'un petit oculus sur l'au-delà et le jugement dernier, lui offrent une maison de famille où on peut s'installer. Alors qu'un manuel de mathématiques n'offre pas une maison de famille. Un culte offre un agenda plein du matin au soir avec des repères et des obligations. Il dit le vêtement qu'il faut porter, le menu, les démarches, les ablutions, autant de sécurité pour un être naturellement insécure, comme nous. Un culte, c'est une demeure qui nous construit autant que nous la construisons et où les règlements de copropriété ont réponse à tout, parce qu'ils couvrent le tout de notre destinée. Je parle des religions du salut. De la naissance à la mort et même après. Alors qu'il n'y a pas de science globale, englobante. Donc un culte, c'est une offre de cohérence et ça rassure, alors que l'esprit scientifique, c'est plein de courants d'air, c'est toujours révisable, c'est donc déstabilisant. Il était donc naïf d'attendre du seul progrès des connaissances scientifiques une régression des pratiques, disons, magico-religieuses ou superstitieuses. Roger Vaillant, écrivain communiste de passage à Rome en 1950, raconte qu'il s'est rendu au Vatican par curiosité, Pour voir de ses yeux, écrit-il, en la personne de Pie XII, le dernier pape. Parce que les fidèles du matérialisme scientifique étaient alors certains de mettre la religion au musée, et 50 ans plus tard, c'est la religion qui les a mis, eux, au musée. Et c'est le pape François, à Rome, qui défend avec le plus de succès ou d'écho la cause des prolétaires et des migrants. Alors voyez-vous, c'est vrai qu'on ne détruit que ce qu'on remplace, et le socialisme ouvrier auquel se rattachait Roger Vaillant, il a échoué à structurer une maison du peuple, pourvoyeuse d'entraide mutuelle et d'estime de soi. On peut le regretter, mais c'est ainsi. Je suis sûr que Jean Jaurès, à la belle époque, aurait bien voulu voir transcroître une idéologie rationnelle, le socialisme en un ensemble habitable. Lui qui a écrit, je cite, « Je ne conçois pas une société sans religion, comme sans croyance commune qui relie toutes les âmes en les rattachant à l'infini d'où elles procèdent et où elles vont. » Jaurès eut sans doute été consterné par l'actuel triomphe de l'économisme, l'allié numéro un des fanatiques et des obscurantistes, chez ses arrière-petits-enfants qui osent encore vaguement se réclamer de lui. Oui, parce que ce qu'on appelle, ne l'oublions pas, le retour du religieux, c'est ce qui a sanctionné l'échec des systèmes laïcs d'assurance-vie à pallier l'insoutenable légèreté de l'être, à nous offrir des murs solides. Et quand les partis et les associations ouvrières ne sont plus là pour fournir les sécurités requises, à la fois matérielle et morale, la détresse se retourne tout naturellement vers ces refuges ancestraux qui ont de la patine et du savoir-faire. Pensez seulement au formidable réveil en pleine modernité libérale. Pensez à l'expansion tous azimuts chez les plus déshérités de la mouvance evangelical aux multiples dénominations. Les évangéliques ont quitté l'Amérique du Nord pour embrasser les masses les plus humbles d'Amérique centrale et latine. Ils ont gagné l'Afrique et l'Asie ainsi que les populations immigrées en Europe. À l'enseigne du Saint-Esprit, la veine évangélique, sur un mode émotionnel et fondamentaliste, met la terre promise à la portée des plus pauvres et des déshérités.
Taught me how to live, preacher. talking about the happy days.
Oh, happy days.
Now, come on and talk about the happy days.
Oh, happy days.
Oh, 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 happy days.
Oh, happy days.
Les philosophes, les travailleurs de la preuve, ils n'aiment pas la religion. Et on les comprend d'ailleurs, parce que les religions les ont trop empêchés à penser en paix et librement pour leur donner envie à eux de la penser elles. La critique de la religion, pensant à Lucrèce et à son De Natura Rerum, de la nature des choses, c'est un peu le ticket d'entrée dans la classe supérieure. Et le rejet du religieux a toujours de quoi faire, hein, au vu des flots de sang qu'ont pu et continuent à faire couler les dieux dans la cité. Mais les philosophes, qui sont des gens probes et rationnels, ne peuvent pas, malgré leur répugnance on ne peut plus explicable, ne peuvent pas ne pas se poser in fine la question « d'où ça vient ? D'où vient-il ce charme enchaînant ? Et pourquoi ça dure jusque dans l'âge adulte, cette maladie infantile dont il serait grand temps de guérir ? Et d'ailleurs, chaque système philosophique a son ordonnance pour la guérison. Alors, je crois qu'on peut, sans trop rentrer dans les détails, distinguer trois grandes familles d'esprits du côté philosophique. Trois généalogies putatives lorsqu'il s'agit d'expliquer rationnellement l'émergence et la résilience en pleine société moderne, civilisé, de cette déraisonnable attraction. La première famille voit la religion comme un effet dans la conscience des rapports sociaux. Appelons cela la sociogenèse du religieux. Dans cette conception, disons, c'est mal parti, mais rien n'est fichu. La science gagnera. Lorsqu'il sera mis fin à l'ignorance des lois de la nature, disait Lucrèce, lorsqu'il sera mis fin à l'aliénation, dit Feuerbach, l'inspirateur de Marx, lorsqu'il sera mis fin à la société de classe, dit le même Marx, eh bien, la fantasmagorie religieuse s'évanouira d'elle-même. Il y a une deuxième famille qui réunit les tenants de la biogénèse, où l'on voit Nietzsche, pour qui la religion penche du côté de la mort, se disputer avec Bergson, pour qui retrouver la religion exige de replacer l'homme dans l'ensemble des vivants et replacer la psychologie dans la biologie. Et puis, il y a enfin, troisième famille, les tenants de la psychogénèse dont Freud est le plus illustre. Je le cite. « Je pense pour une bonne part que la conception mythologique du monde qui anime jusqu'aux religions les plus modernes n'est autre chose que la psychologie projetée sur le monde extérieur. » C'est ce que dit Freud dans « La psychopathologie de la vie quotidienne » en 1901. Et « L'avenir d'une illusion », un autre livre de lui, c'est l'analyse de ce qu'il appelle une névrose universelle, et il ajoute drôlement « qui dispense tout un chacun de la tâche de former une névrose personnelle ». Oui, ça fait un peu du religieux, une mesure d'économie, si vous voulez. Et donc Freud extrapole d'une pathologie individuelle à une normalité sociale. À ses yeux, les délires de masse auraient leur source dans le désemparement infantile, la Hilflosigkeit, désemparement venant de la prématuration biologique du petit humain, cause du sentiment d'impuissance ancré déjà chez l'enfant et donc cause de cette quête perpétuelle du père ou de la mère, enfin de figure sécurisante. Il y a pourtant un optimisme freudien. La religion étant, dit-il, comparable à une névrose d'enfance, l'humanité surmontera cette phase névrotique comme tant d'enfants dépassent en grandissant leur névrose infantile. Au fond, c'est peut-être Freud qui peut laisser le plus d'espoir à un rationaliste bon teint pressé d'en finir avec ce vieux collage et qui, à ses yeux, empêche notre émancipation et un tranquille retour à la réalité réelle, à la vérité vraie. Sans trop réfléchir à ce curieux phénomène assez embarrassant, et qui serait le suivant. Quand ce qui permet de faire corps, donc le religieux, se met à faire col, Église, parti, journal, syndicat, académie, les bons esprits se décollent ou s'arrachent, mais pour constituer assez vite un autre corps qui ne tardera pas à son tour à faire colle, et ainsi de suite. Les lumières qui s'éteignent au firmament ont depuis un siècle ou deux une fâcheuse tendance à se rallumer au ras des pâquerettes. Et nos religions séculières, qui ont tourné le dos au ciel, ont constitué des cultes tout à fait dignes de ce nom, avec des liturgies, des missels et des demi-dieux appelés fourreurs ou duce. Parce qu'il y a tout de même un trait qui devrait inquiéter les optimistes de la sécularisation. Je dirais que c'est la prime à la transcendance en matière de longévité et de consistance. Les religions séculières ou politiques ont la vie courte, elles se calculent en siècles, un ou deux pour la religion républicaine, en un demi-siècle pour le communisme, en une ou deux décennies pour le fascisme. Mais plus l'entité adorée est évasive et haut perché, et je pense au Dieu invisible, plus son culte est stable et séduisant. Dieu recrute mieux et plus que la patrie, l'histoire ou la raison. Et je dirais, plus une religion aujourd'hui tourne le dos à la modernité, plus elle a de succès. Alors, la sortie du religieux, qu'on la juge enviable ou non, je ne rentre pas dans cette discussion. Est-ce que c'est simplement une chose envisageable? À l'échelle individuelle, oui, c'est évident. Il nous suffit de nous replier, chacun sur notre aventin, et de fermer les écoutilles. C'est un cant à soi qui se pratiquait fort bien déjà sous l'Antiquité. C'est celui d'Épicure, de Socrate, de Lucrèce. Encore que Socrate avait son démon, son daimon, c'était peut-être un esprit religieux. Mais les libertins, sous l'Ancien Régime, se passaient fort bien de religion. Les séparatistes qui ont les moyens de l'être, enfin, ceux qui se séparent d'un credo collectif, ils constituent aujourd'hui, dans beaucoup de pays occidentaux, en tout cas pas aux États-Unis d'Amérique, mais dans beaucoup de pays européens, une majorité silencieuse. Est-ce que la notion de sortie du religieux peut s'extrapoler à l'échelle des peuples et des nations, surtout quand leur survie est menacée? Je crois qu'on peut en douter. Dans la mesure où le principe de cohésion des groupes sociaux relève inéluctablement d'une croyance partagée, qui fait que toute communauté humaine me semble être en puissance de mythe et en quête de frontières. Et les augures qui voient cette extinction du religieux inscrite dans le devenir démocratique, dans notre société des individus, on ne saurait leur reprocher de prendre leur désir pour la réalité, c'est ce que nous faisons tous, et que font encore mieux les croyants, certains de voir sous peu le Messie de retour. Mais il est probable qu'ils infèrent de l'affaiblissement de l'institué, qui est aujourd'hui patent en Europe de l'Ouest, à celui de l'instituant. Ou encore qu'ils croient que la disparition d'un dispositif de croyance, une religion, pourrait être la disparition d'une disposition à croire tout ce qu'on voudra. Je dirais, si vous voulez, que les institutions passent, mais que l'instituant reste et pour cause. Il est en nous et dans le nous. Cette prédisposition innée, base de la religiosité, recèle un potentiel religieux inépuisable, mais d'intensité variable, qui va de l'illuminé tout en haut au jobard tout en bas, qui va de la voyance sublime à l'oblique génuflexion des gens pressés. Et cette prédisposition, ce n'est rien moins ou rien de plus qu'une propriété essentielle de l'esprit humain, à savoir notre aptitude à la symbolisation, ou si l'on préfère, à la pensée par analogie. Cette aptitude est propre au singe nu qui a la parole, et la parole ou le langage ont pour vertu ou défaut, ou les deux, de rendre présent ce qui ne l'est pas, ou si l'on préfère, de faire exister dans notre tête des choses ou des êtres qui n'existent pas dans la réalité. L'animal humain est ainsi câblé qu'il ne peut s'empêcher d'affabuler, d'embellir et de fantasmer, de mettre le visible en correspondance avec un invisible, de mettre un ici en correspondance avec un ailleurs, un maintenant avec un hier ou avec un demain, en sorte que toute chose vue, sentie ou entendue le renvoie à autre chose. C'est ça la capacité symbolique. C'est ce qui fait que nos yeux voient double et que notre oui entend des sous-entendus. Ce qui, soit dit en passant, rend plutôt pénible de voir les choses comme elles sont, et nous-mêmes telles que nous sommes, à quoi nous entraîne l'étude scientifique, mais dont nous éloigne cette incapacité natale à nous contenter sans protester du sort qui nous est fait et du réel à l'état brut. Et c'est d'ailleurs heureux, cette aptitude, ou cette infirmité, je ne sais comment dire, parce que s'il fallait nous en tenir strictement à ce qui est, sans imaginaire ajouté, eh bien le monde alentour perdrait son aura, voire même toute signification à nos yeux. Mais c'est aussi malheureux parce que cela nous inspire un sentiment radical et continu de frustration et d'insuffisance. À quoi s'ajoute la substance fiduciaire de nos communautés, où c'est en délirant un peu, beaucoup, passionnément, que les hommes se relient le mieux les uns aux autres. Une illusion, ça fait reliance. C'est une façon de résister. Et n'est-ce pas ce qu'on a de meilleur en nous, cette capacité de dire non à ce qu'on a sous la main ou devant les yeux? N'est-ce pas la clé de toute abnégation possible? J'allais dire de toute morale possible. Les hommes ne sacrifient leur vie que pour des choses dont ils ne sont rien moins que sûrs. C'est d'ailleurs pourquoi le martyr n'est preuve de rien, pas plus qu'une bonne démonstration n'oblige à une bonne conduite. Une bonne démonstration, mais la raison acquiesce. Et après quoi? C'est là la question. Après quoi? Ancien ou actuel, païen ou chrétien, les lieux de culte que nous avons autour de nous, ils attestent d'une grande activité et d'une grande influence. Activité et influence qui sont liées à la santé, à l'hygiène et à la médecine des corps malades. Ce n'est pas seulement Lourdes aujourd'hui, où tous les sanctuaires qui donnent l'espoir d'une guérison. Quand vous remontez dans le temps, vous pouvez remonter aux sources de la Seine, du fleuve la Seine, cette oasis de verdure en Haute-Marne, qui a été transformée il y a 2000 ans en sanctuaire par les Gallo-Romains. Et là, vous retrouverez des statues de naïades, des cornes d'abondance, des ex-voto anatomiques en bois, en bronze ou en pierre. Vous retrouverez des objets votifs, des pieds, des seins ou des oreilles, pour remercier d'une guérison ou pour implorer une guérison. Et là, des milliers de pèlerins, comme aujourd'hui à Lourdes, venaient y faire leurs ablutions et présenter des offrandes à la déesse Sequana, d'où vient notre Seine. Et pourquoi? Parce que l'eau est la source de la vie, et que son manque signifie la mort. Parce qu'on s'immunise et se purifie en se lavant. Parce que l'hygiène y gagne avec l'humilité. Jésus lave les pieds de ses apôtres. Les ondes sont salutaires, et les sources sacrées, celles de la Seine, du Gange ou du Jourdain, sont rédemptrices. C'est l'eau des bénédictions, des aspersions et des immersions, par le baptême notamment. Et c'est peut-être tout simplement l'instinct de conservation qui sous-tend les diverses religiosités mondiales et qui font un sort particulier à tout ce qui, dans la nature, symbolise le don de vivre et de renaître, hydrater, réchauffer, fleurir, le feu, l'arbre, l'eau, Oui, ça, c'est la vie. Et dans le grand catéchisme de l'Église catholique, 786 pages, le mot « vie » apparaît 300 fois et le mot « science » 8 fois, et de façon péjorative. La vie avant la science. La lutte pour la régénérescence n'est pas un vain combat et on peut lui pronostiquer un bel avenir, que ce soit avec ou sans Dieu. Tout se passe comme si, au fond, la vie avait été proclamée d'origine divine par nos ancêtres pour éviter que le divin fût reconnu d'origine vitale, ce qui eut sans doute à leurs yeux d'évaluer leur pratique. Quelqu'un posait la question « Quel est le noyau originaire des religions ?» Eh bien, c'est la célébration de la fertilité. C'est l'exaltation du génératif. Vie égale amour égale union. Vous trouverez ça dans le catéchisme. Ce sont trois thèmes à la fois poétiques et rigoureux, reliés au moyen d'un trait d'union symbolique auquel un biologiste ne saurait faire d'objection de principe. Dieu est mort, a écrit Jean-Paul Sartre. Mais l'homme n'est pas pour autant devenu athée. Et il ajoutait, ce silence du transcendant joint à la permanence du besoin religieux chez l'homme moderne, voilà la grande affaire. Oui, c'était, c'est et ça reste la grande affaire. Vous n'avez qu'à ouvrir le journal. En d'autres termes, tant qu'il y aura sur cette terre des bipèdes insécures, croyant ou non, avec ou sans Dieu, des bipèdes qui ne veulent pas lâcher le morceau, notre religiosité incoercible, elle sera toujours là, elle continuera de nous aider à nous tenir droit et constant dans notre vouloir vivre, et en même temps, à nous faire prendre des vessies pour des lanternes, comme si on ne pouvait pas voir l'un sans l'autre. En sorte qu'il y a autant de raisons de se plaindre de cette prédisposition que de s'en féliciter. Impossible, en tout cas, me semble-t-il, de ne pas faire avec cette religiosité qui exige de notre part autant de marques de respect que de précautions à observer. Vous savez, la science a bien mis en place des comités d'éthique. Et pourquoi on ne ferait pas de même pour les religions ? Je vous remercie.
C'était Allons au fait, une émission proposée par Régis Debray, réalisation Rafik Zénine. Réécoute et podcast sur la page de l'émission sur le site de France Culture.